Bienvenue dans Art Confidence sur Art District, l'émission qui va à la rencontre des artistes et des acteurs du monde culturel, ce qui les anime, ce qui les passionne, ce qui les motive. Bonjour à tous, c'est Julie Chasse-Martin au micro et je suis aujourd'hui à la librairie Mazarine, 78 rue de Mazarine à Paris, et je suis avec Yvan Aléchine. Bonjour Yvan.
Bonjour Julie.
Alors Yvan Aléchine, pour commencer, je suis obligée de dire que vous êtes le fils du peintre Pierre Aléchinski et vous êtes surtout un poète, voyageur, ethnologue, photographe, reporter, on pourrait énoncer beaucoup de termes vous concernant. Vous avez surtout les yeux grands ouverts et l'âme hypersensible. Et je dois avouer que j'ai découvert votre écriture avec un bonheur exquis, une poésie en prose qui m'a complètement charmée. Alors avec vous, aujourd'hui, on va revenir sur vos publications mexicaines, puisque la vitrine de la librairie Mazarine, jusqu'au 27 mai, est consacrée justement à vos publications mexicaines, Yvan Aléchine. On va parler évidemment de poésie, car votre poésie en prose m'a fait revenir à cette idée que plus que toute autre forme d'écriture, elle permet l'émerveillement, l'intime, le rêve intérieur et la réalité des sentiments. Alors Yvan Aléchine, pourquoi le Mexique ? Vous êtes un voyageur, vous êtes toujours sur le départ, la quête, la curiosité, la quête de sens. Pourquoi dans les années 90, vous avez décidé de partir au Mexique ?
L'attirance, c'était le noir et blanc, c'était l'aridité, c'était les cactus, les agaves, les grands plateaux. Les photos de Juan Rulfo, les films de Eisenstein, noir et blanc, le côté Tina Modotti, tous ces gens-là m'attiraient énormément. Une espèce d'aridité et noblesse aussi dans Los Olvidados. Ça c'est une chose, c'est le rêve. Et puis la réalité aussi, c'est-à-dire que c'est un pays qui m'a donné l'occasion de me dépasser un petit peu dans ma vie littéraire et quotidienne à Paris, parce que il me semblait que la poésie justement a des racines et les racines c'est la terre. Et à force de détruire notre environnement, je me disais qu'il nous resterait plus qu'une poésie de parking ou de carrefour. Et donc au lieu de commencer à devenir cynique, j'ai une très 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 bonne amie là-bas qui s'appelle Ophélia Medina, qui est la première à avoir joué Frida Kahlo à l'écran. Et un jour Ophélia me dit: mais qu'est-ce que tu fais à Paris? Alors si ça va pas, viens avec nous, parce que nous on vaccine les enfants, on s'occupe de choses intéressantes. Et je suis un peu tombé des nues, parce que quand je connaissais Ophélia Medina il y a un certain temps, Ophélia c'était la star. Et donc par exemple, quand un jour on brûle un feu rouge, le flic s'amène et puis au lieu de lui demander une amende, il demande un autographe, quoi. Donc c'était ce niveau là et je me dis: mais toi qui t'occupes que de toi, qui ne t'aimes que toi, comment peux-tu t'occuper des autres? Donc la situation était renversée, on est parti, je l'ai suivi, et puis du coup j'ai pris une carte de presse et j'ai commencé à regarder les endroits où ça chauffait, où ça n'allait pas, des autoroutes qui étaient en prévision, etc. Et la meilleure façon, c'était de prendre des photographies, parce que comme je suis pas journaliste, aller dans une rédaction avec un papier, personne ne vous regarde. Et personne n'a le temps. On a fait une ou deux pages dans Libé, il y a des choses comme ça, mais justement parce que... Alors du coup, j'ai amené des photos, choc, et j'ai dit: bon, alors maintenant vous avez ces images, je vous donne le texte. Et donc on a pu un petit peu parler des drames écologiques au Mexique.
C'est un mélange d'amour et de violence en même temps, le Mexique, finalement, pour vous. C'est-à-dire que c'est un coup de foudre, mais en même temps, à travers votre écriture, c'est aussi montrer la misère économique, bien sûr, mais aussi cette richesse anthropologique qui existe là-bas.
Oui, c'est ça, c'est assez étrange, quoi. C'est un pays assez lisible au fond, parce que d'un côté, il y a vraiment encore des gens qui ont un rapport avec la terre et avec leur divinité assez puissant. Et puis de l'autre côté, il y a le monde moderne qui arrive avec des choses pas très agréables comme le maïs ou le haricot qui maintenant est moins cher venant de l'étranger que cultivé à l'intérieur, ou presque. Et puis les divinités nouvelles, celles de Walt Disney, de Toy Story, etc., arrivent là-bas sur les cartables, partout, sur les... Et donc il y a comme un choc culturel que je trouve, et c'est plus visible. En tout cas, c'est souvent quand on est dehors, en dehors de chez nous, que on voit mieux ce qui se passe. C'est comme justement un photographe qui prend un peu de recul et puis qui cadre bien. Là, on voit mieux. Enfin, moi, j'ai eu besoin de ce pays comme une sorte de révélateur un petit peu de moi-même, du drame écologique et puis aussi de toutes les ressources qui sont encore là.
Il y a une recherche aussi d'une authenticité, d'une certaine manière, quand vous allez auprès, par exemple, des Indiens Huichol, je ne sais pas si on
Oui,
prononce comme ça,
Huichol, oui, c'est
Huichols.
ça.
Là, c'est aussi avec l'appareil photographique.
Oui, j'ai toujours eu finalement, mais eux, c'est différent. Il me semblait qu'ils n'étaient pas aussi, ils n'étaient pas aussi vulnérables par rapport au drame écologique. Donc, eux, ils sont dans le nord, dans la Sierra Madre occidentale. Tandis que les grandes forêts tropicales, elles sont dans le sud, évidemment. Mais si, ils ont aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes qui s'ajoutent, bien sûr. Je les prends en compte. Mais ce qui m'attire chez eux, c'est plus parce que c'est vraiment une des dernières ethnies qui est à la fois sont des chasseurs, qui deviennent maintenant petit à petit plus que des chasseurs rituels et des cultivateurs, et là aussi plus quasiment plus que rituels, parce que ils n'ont pas économiquement parlant, ça devient très pénible quoi pour eux de vendre leurs produits. Et puis ils ont un rapport avec des divinités. Ce sont des cousins éloignés des Aztèques au fond, hein. Ils ont les mêmes divinités. Ils sont là, un peu comme le dernier de la classe qui aurait survécu, je dirais. Les Aztèques étaient trop premiers. Ils se sont fait vraiment démolir. Ils étaient trop visibles. Et eux, tout au fond de la classe, près du poêle, ont survécu.
Alors, dans votre ouvrage publié l'année dernière en 2016 chez Galilée, qui s'appelle Enterrement du
Ah oui.
Mexique, vous écrivez: Je suis le grand-père feu des Indiens Huichols. J'observe, j'applaudis, je fulmine, je ne m'éteins pas, je fais feu de tout bois, et si l'on ne me voit plus, c'est que sous la cendre, j'ai regagné le centre. Alors, le poète doit-il toujours être ivre au bord du précipice? C'est ce qu'on ressent quand on vous lit un petit peu.
Mais j'ai les pieds sur terre, justement. C'est ça qui me permet de. Je contrôle assez bien quand même tout ce que je vois.
Observateur.
Oui, parce que justement, il faut pas. Ce que j'ai appris avec les Huichols, justement, il faut pas oublier qu'aussi, ils ont trois divinités, le cerf, le maïs et le peyote, le cactus dit hallucinogène. Mais j'ai un ami qui s'appelle un poète qui s'appelait Charles Duy, qui disait c'est pas un hallucinogène, c'est un lucidogène. Et donc il faut faire attention quand même, parce que il y a eu toute une sorte de tourisme un petit peu de hippie, post-hippie, et encore maintenant très important pour aller manger du cactus lucidogène, mais ça rend, tout le monde ne s'en sort pas forcément bien avec ces substances et se met à délirer et pas observer les règles. Et donc justement j'ai appris à observer les règles et en général je n'utilise pas le peyote avec eux, j'essaye au contraire de les observer et puis de me contrôler, parce qu'on est aussi vite assez fragile devant une culture quand même très forte, et ils sont assez agressifs, ils ont de l'humour, ils aiment bien voir jusqu'où on peut tenir, donc il vaut mieux pas être trop ouvert devant eux.
Alors, Yvan Aléchine, dans la vitrine de la librairie Mazarine, on peut voir notamment deux de vos portfolios, l'un s'intitulant « Détails secondaires » et l'autre « Ni hablar ».
Oui, ce qui veut dire « sans commentaire ».
Parlez-nous, voilà, justement, de ces deux recueils.
Ah ben, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur, parce que c'est un peu un travail en marge et que ce travail en marge a l'air de plaire pas mal. C'est hors compétition, disons. C'est des livres hors compétition tirés à 90 exemplaires à peu près. C'est un boulot fou. C'est un assez grand format. Et donc, ce sont des histoires photographiques. On pourrait dire que c'est pas du roman photo, mais il y a quelque chose comme ça. C'est des images que je... En noir et blanc... que j'ai prise au Rolleiflex ou à Hasselblad, donc avec des pellicules, pour me démarquer un petit peu du travail avec le digital, où j'ai un peu trop donné, j'ai fait des milliers de photos, et à la fin on s'essouffle et on a la tête un peu qui explose, parce que du coup, on a tellement d'images que la sélection, la post-sélection devient infernale. Et du coup, j'ai ressorti les vieux appareils Hasselblad ou Rolleiflex en format 6-6, carré, très beau, très simple, très humble. Et au lieu de faire 150 photos dans la journée, j'en fais 12, et encore. Et donc, et sur ces 12, c'est une planche de contact, on en choisit peut-être une ou deux. Et donc, je me retrouve avec très peu d'images, mais très, très concentré, très... J'ai aussi appris que la frustration fait partie du travail photographique. On pense qu'on peut tout dire avec le digital, et surtout si on prend un grand angle, genre 35 ou 24, c'est faux. Au contraire, il faut admettre qu'on ne peut pas tout dire, et que c'est justement avec un tout petit coin du tapis qu'on peut peut-être parler du tapis entier. Et j'ai appris ça au cours des 3-4 dernières années. J'ai appris... c'est une nouvelle façon de prendre des photos.
Donc la question du cadrage est intéressante pour vous.
Très important. Et donc le maître absolu, c'est Manuel Alvarez Bravo ou Graziella Iturbide. Graziella a été son élève pendant des années. Et Graziella Iturbide me racontait que Manuel Alvarez Bravo et sa femme Lola avaient tellement peu d'argent qu'ils se disputaient pour un rouleau de douze poses. Enfin, se disputer, c'est bien gentil. Et Emmanuel Alvarez Bravo a eu sa première grande exposition après 60 ans. Et il était juste supporté par Diego Rivera, Roscoe, des copains. Mais il est sorti au public assez tard. Et le gouvernement mexicain lui a enfin fait une très belle expo assez tard. Heureusement, il a vécu encore 40 ans. Il est mort à 101 ans, un peu comme Lévi-Strauss. Et donc je reviens à la photo noir et blanc, 6-6, carré. Et j'ai commencé à faire des affiches. Et puis, c'était invendable dans les... Paris Photo, des choses comme ça, c'est trop fragile.
Il faut parler du papier, justement, qui
oui,
est très délicat.
C'est du papier, justement, adorable, qui était un papier dit Revolution. C'est un papier assez fin, un peu gris, et qui servait pour les affiches de bal, pour les affiches de cinéma, pour les gravures populaires de Posada, les gravures sur bois, etc. Et donc c'est une vieille tradition de l'imprimerie mexicaine. Et d'une certaine façon, moi qui me bats un petit peu parfois contre la destruction du Mexique, parfois je suis un peu en colère contre les politiques là-bas, c'est évident. Mais c'est en même temps, je leur rends hommage parce que je reprends le papier qui est vraiment une des bases de la culture populaire mexicaine, et le format 6-6 noir et blanc, très tranquille. Là aussi, c'est un hommage à tous les photographes qui m'ont précédé. Et ça introduit du calme et peut-être du luxe et peut-être de la volupté dans ces livres. Et donc, je pense que si j'ai un combat un peu politique quand même, en essayant de pointer du doigt en tout cas ce qui ne va pas, je le fais par la bande maintenant.
Plus par la photo que par les mots.
Mon dernier livre, Enterrement du Mexique, j'ai quand même rien que le titre, j'aurais pas dû. Si vous voulez, il y avait un titre beaucoup plus soft, beaucoup plus littéraire, qui s'appelait Pour sucre et lumière, qui était tiré d'une phrase de Léonard de Vinci. Et puis, je sais pas, entre copains, dans une discussion, je dis, tu sais, le sous-titre, c'est Enterrement du Mexique. Et on a dit, mais bon, vas-y, ose. Et du coup, je me suis tenu un petit peu à carreau par rapport aux officiels de la culture du Mexique. Je me dis, si je donne un titre pareil, je vais pas quand même les solliciter. Ce serait quand même Ceci dit, ils ont cité La Vitrine dans le bulletin culturel. Donc, je suis assez étonné. Et oui, bien sûr, la politique et la poésie ne naît pas de rien. Et le contexte est important, certainement. Donc, dans Enterrement du Mexique, je parle du prix à payer parfois pour être libre et avoir une pensée à soi.
Vous écrivez aussi. Donc, toujours dans Enterrement du Mexique, il m'a semblé que lors de cette période mexicaine de ma vie poétique, j'étais devenue une sorte de poète sur le motif, comme il y avait eu des peintres sur le motif. Est-ce que vous êtes aussi un photographe sur le motif ?
Oui, tout à fait, j'en suis sûr. D'ailleurs, Ophélia, encore pour revenir à elle, Ophélia Medina me disait, toi, tu es vraiment hollandais, tu adores les détails. Comme la vieille peinture hollandaise, les détails. Je crois que c'est une caractéristique, peut-être depuis que je suis passé de la culotte courte au pantalon long, j'ai toujours aimé les détails. D'ailleurs, détail secondaire, un des deux livres, c'est...
Le mot détail est dans le titre.
Oui, c'est marrant. Et un jour, Francisco Toledo, qui est le peintre mexicain, m'a dit « Pourquoi détail secondaire ?» J'ai pas pu lui répondre. J'écoute, je sais pas. Je voulais mettre ce nom, ce titre. Donc,
et vous allez continuer à écrire et à photographier le Mexique ?
Oui, j'ai eu un moment un peu de recul il y a un an, et puis c'est reparti. Je repars en novembre et je pense refabriquer quelques livres comme ceux qui sont ici, Niabla ou Détails secondaires. J'aimerais bien.
Pour constituer une sorte de série.
Oui, et ensuite on pourra peut-être les réunir et en faire un livre de librairie, comme on dit. Et puis, pour ce qui est des textes et des écrits, oui, un grand patron, disons, de la littérature d'aujourd'hui m'a dit, mais qu'est-ce que vous foutez au Mexique ? Vous devriez écrire un livre là-dessus. Donc, on se tait sur ce monsieur pour le moment. Et évidemment, j'ai envie d'écrire un livre sur qu'est-ce que je fous au Mexique en 2017-18. Et je suis assez obsédé par à la fois les chamans et approfondir ce qu'ils m'ont déjà appris, que je trouve assez précieux. Je vais continuer à prendre des informations sur le mode anthropologique. Et puis, il y a toute cette apparition des nouvelles divinités qui viennent de Walt Disney ou de Toy Story, qui me fascine. Et j'ai commencé à louer tous les films et je suis devenu un fan de Toy Story, de Bob l'éponge.
Oui, là, on est plus chez les Mayas, là.
Non, mais c'est ça qui est génial dans la vie, c'est qu'on arrive à se contredire et faire Et du coup, je me suis mis à lire Andersen, et Grimm, et Perrault, et Collodi, et j'ai envie de voir ce qui va sortir de ce plus et de ce moins. Est-ce que ça va faire un boom ou est-ce qu'il y aura la lumière? C'est le docteur fou.
Alors, Yvan Aléchine, vous vous considérez plus comme un poète, un ethnologue, un voyageur. Comment vous définissez vous-même ?
Ma colonne vertébrale, c'est la poésie, il n'y a pas de doute. Mais après, il y a des bras, il y a des jambes, il y a des poux, il y a tout le reste. Et donc, mais la colonne vertébrale, l'œil, est certainement comme ça, de poète, si ça... Qu'est-ce que disait Breton, l'œil naît à l'état sauvage, par exemple, ça c'est bien. C'est vrai que si je me souviens que j'ai toujours eu ou Rimbaud ou Apollinaire dans la poche, c'est vrai. Mais c'est la colonne vertébrale. Le reste, c'est le désir de je suis fasciné aussi bien par Kafka que par Andersen, que par Charles Dickens, le rêve Dickens ou Moby Dick. Enfin,
il y a peut-être aussi.
J'aimerais en ce moment mon livre favori, c'est Pinocchio de Collodi. Mais c'est fabuleusement écrit. Et donc. Et ça n'empêche pas d'aimer Triste Tropique ou le totémisme aujourd'hui de Lévi-Strauss. Au contraire.
Donc un peu de Lévi-Strauss.
Un peu de Lévi-Strauss. Un peu d'Andersen.
Victor Segalen peut-être.
C'est pas. J'ai jamais. Je sais. Je devrais. J'y arrive pas. Ça me fascine moins que d'autres. Je préfère Griol, Marcel Griol, Diodo. Ça, oui. Alors ça, on me l'arrachera pas des mains.
Et José Maria de Heredia.
Ah, j'ai vu sa maison à Cuba. Je savais pas qu'il était du côté de Cuba. Je me souviens plutôt des très très mauvais poèmes de José Maria de Heredia quand on était à l'école. J'ose même pas le répéter tellement c'était nul. Mais peut-être que c'est quelqu'un de bien, mais alors là j'ai totalement zappé.
Et Paul Gauguin alors ?
Paul Gauguin, c'est... évidemment un des plus chers, des plus tendres lointains cousins, je pense.
Je pense aussi, oui.
Sauf que j'ai un meilleur destin, j'ai une meilleure santé.
Heureusement.
Oui, c'est facile. Meilleure santé, meilleure dent.
Peut-être cette quête de paradis perdu que Gauguin est allé chercher aussi un peu au bout du monde. Cette fascination de l'exotisme ou...
Mais je l'ai trouvé,
d'une certaine authenticité de la nature.
C'est-à-dire que le paradis n'est pas perdu, justement. Il suffit de savoir où il est, et puis dans le paradis, il y a aussi des parking meters, comme disait Bob Dylan. Il faut regarder les watching the parking meters, c'est-à-dire l'heure tourne. Et même au paradis, l'heure tourne. Et donc, il y avait aussi Christian d'Autremont, un poète belge fondateur de Cobra. Lui, son paradis trouvé, c'était les Lapons. Et j'ai reçu une très très belle lettre quand j'étais adolescent de Christian d'Autremont. Et en parlant que oui, on a tous besoin d'un point d'ancrage, d'un lieu de méditation. Lui, c'était les Lapons. Moi, à l'époque, j'avais vu les Pygmées. On avait enregistré de la musique polyphonique. J'en étais revenu complètement changé, encore une fois, et renforcé, et heureux de vivre, enfin.
Enfin.
Oui, parce que l'adolescence, c'était plutôt, j'étais habillé tout en noir, recroquevillé sur ma chaise, en train de lire L'autre et Amont et en maudissant tout le monde. donc, ça a quand même changé énormément.
Par contre, est-ce qu'on peut dire que cette jeunesse, même s'il y a eu cette noirceur que vous rappelez, a été marquée par les surréalistes, le groupe Cobra, dont
Tout
faisait partie votre père,
à fait.
et puis cette énergie picturale, et d'ailleurs aussi cette énergie dans les mots que les surréalistes pratiquaient.
Bien sûr, je suis né dedans. En fait, c'est comme Obélix, quoi. Je suis
Vous
né
avez
dedans.
connu Breton, par exemple?
Faut pas délirer, quand même.
Oui.
Mais oui, Breton est venu visiter mon père, Villa Otoz, rue Piat, et je devais avoir 7-8 ans. Et moi, je croyais que c'était Auguste le Breton, c'est-à-dire André Fifi à Paname. J'étais enchanté. Voilà, Jean Gabin, les mitraillettes et tout.
C'était pas tout à fait
C'était
ça.
pas lui. Et ensuite, mon père m'a amené un peu plus tard, j'avais 12-13 ans, au café sur Alice qui s'appelait La Promenade de Vénus, au Hall. Et il était là, et j'étais dans le fond, et il parlait. Et je me souviens que au milieu de sa cour, tout d'un coup, tout ce brouhaha, il s'est arrêté, il s'est regardé, il m'a fixé de loin, il a fait un grand sourire qui planait au-dessus de tout ce brouhaha, et puis il est reparti dans son. C'est tout ce que je sais de lui. Mais bon, comme je suis né comme ça, sensible et attentif, ça m'a marqué.
Il y a eu cette atmosphère.
Oui, et puis surtout Asgore Yorn, le type de Cobra, l'ami de Guy Debord, le type qui a financé tout le situationnisme, c'est Asgore Yorn. Donc chaque fois qu'il vendait une toile, c'est tout le Situationist Time, c'est Asgore Yorn. Asgore Yorn partageait l'appartement. Et lui, le rire danois, la force viking, la folie inventive, je l'ai encore, je veux dire. Et c'est des gens qui sont, même Christian d'Outremont, je me souviens que c'était tous ces types étaient, quand j'étais gamin, ces types ne roulaient vraiment pas sur l'or. Et Christian d'Outremont, encore moins. Lui, c'était vraiment le poète qui n'a pas un sou, qui avait des valises pleines de manuscrits, qui me laissait à la consigne d'un hôtel en disant je reviens payer. Et c'est mon père qui allait sortir les valises, payait, et mon père a sauvé l'œuvre de Christian d'Outremont, ça c'est évident. Donc je me souviens de tous ces gens-là, ou Karel Appel, qui est maintenant au musée d'art moderne, Karel Appel, jeune, un peu brute, habillé en costume tout rose, dans une Cadillac rose. C'était quand même marrant. Enfin, des trucs comme ça, ou les premiers James Rosenquist, ou tout ça. Non, non, mais le problème, c'est que en même temps, il faut aller à l'école, au lycée, tout ça, et que moi, j'étais très décalé, quoi. Donc, je l'ai payé cher.
Et aujourd'hui, vous aimez aller au musée?
Ben, je voudrais juste dire une chose, c'est Gurdjieff qui dit, il faut faire sauter les barrières, mais après, il faut savoir les remettre. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment fait sauter les barrières et j'ai mis beaucoup de temps à les remettre. Hein. Mais,
Vous racontez ça dans un
dans
roman,
Oldies,
d'ailleurs.
je crois, dans mon truc un peu
Autobiographique. Vous
autobiographique, ouais.
racontez cette.
J'ai détourné une demande de l'éditeur, il voulait un livre sur mon père et j'ai fait un livre sur moi.
Peut-être qu'un jour vous ferez un livre sur votre père.
Oui, quand on me demandera d'écrire un livre sur moi.
C'est ça.
C'est ça.
Ça a été évoqué tout à l'heure, je crois.
Oui, mais ça, à suivre. On verra si j'arrive à. Et donc, oui, les musées, j'adore ça. Le problème, c'est l'entrée. Moi, j'aime bien aller au Louvre, mais pas par la pyramide, quoi. Donc, avant, il y avait la petite entrée des Lions, mais à cause des Vigipirates, on ne peut plus l'utiliser. Donc, je vais plus au Louvre. Le dernier musée, c'est à Washington. C'est trois Vermeer. J'ai mis une demi-heure à regarder trois Vermeer. Et je prenais des notes, justement. Je photographiais pas et pendant que je prenais des notes, des gens passaient à toute berzingue, prenaient une photo et partaient. Et je crois que j'ai inquiété le gardien parce qu'il s'est dit, mais c'est qui ce type qui prend pas de photos et qui prend des notes et qui avance et qui recule? Il va faire un casse ou quoi?
Ah oui, il pensait que vous preniez des notes.
Pour où est le signal d'alarme.
Où se trouve l'alarme.
Donc.
Mais écrire sur l'art, c'est quelque chose que vous aimez.
Oui, il semblerait que oui. Mon père justement m'a dit que j'étais pas trop mauvais portraitiste que c'était une qualité que j'avais. Quoi. J'ai réussi à faire des portraits de trois peintres dans Oldies à suivre.
Et aujourd'hui, Yvan Aléchine, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez des désirs, des
envies? Oui, je vais continuer à faire ces livres avec ce vieil imprimeur Quintas dans la ville de Oaxaca. Ça m'a appris énormément sur ce papier révolution, toujours sur le même modèle. J'en ai déjà un de prêt. J'attends que d'y aller et j'ai envie d'en faire à peu près 4-5. En avoir 5. Et puis je vous dis suivre ma fascination à la fois des divinités Witchall, parce que c'est vraiment des gens qui m'ont accepté. Maintenant je peux plus sortir dans la rue du village sans qu'ils me disent Yvan, viens nous photographier, alors que c'est réputé impossible. Donc c'est moi qui renage, je dis enfin non, foutez-moi la paix, demain. et donc continuer avec eux. Qu'est-ce que c'est que les offrandes? Qu'est-ce que c'est que l'eau sacrée? Qu'est-ce que c'est? Et petit à petit, quand même, ça m'imprègne, ces divinités de l'eau, du vent, du maïs, cette espèce de respect pour le néolithique, hein, c'est-à-dire l'invention du tissage, de la poterie, des rapports humains. Ça me fascine. Et puis en même temps, je vais voir qu'est-ce que je fais de tout ça au point de vue littéraire, avec le côté moderne, Kafka. Et je vous dis Walt Disney et tout ça, réellement, si je pouvais fabriquer un nouveau Pinocchio,
un
Pinocchio moderne, je serais le plus heureux des hommes.
Merci beaucoup Yvan Aléchine.
Merci à vous Julie.
Donc je rappelle que jusqu'au 27 mai, on peut découvrir vos publications mexicaines dans la vitrine de la librairie Mazarine, au 78 rue Mazarine à Paris. Et je vous invite fortement à découvrir donc Yvan Aléchine, son écriture, ses portfolios, ses affiches, si vous ne le connaissez pas. Merci à vous Yvan.
Merci à vous.
Vous êtes directeur de la librairie Mazarine, où nous sommes donc avec Yvan Aléchine pour regarder cette belle vitrine consacrée à ses publications mexicaines. Pierre Durieux, la librairie Mazarine, pouvez-vous nous dire en quelques mots sur quoi elle se concentre, justement, des livres d'art, des livres de la poésie, justement, on vient de parler avec Yvan Aléchine.
La Mazarine développe deux axes essentiellement. Donc il y a beaucoup de livres d'art moderne et d'art contemporain, beaucoup de multiples d'artistes, donc ça c'est une partie de l'activité. Et elle est très spécialisée aussi en art primitif, donc Afrique, Océanie essentiellement. Donc elle joue sur ces deux registres et elle essaye autant qu'il est possible de croiser les deux champs, puisque là, en général les publics sont complètement hétérogènes l'un par rapport à l'autre. Et donc ce qui m'intéresse par exemple dans le cas de la vitrine de Yvan Aléchine, c'est justement il opère dans son travail ce croisement entre une culture occidentale et une culture extra-occidentale, comme par exemple son livre sur l'Afrique, etc. Donc ça m'intéresse parce que c'est typiquement dans ce que j'essaye de développer. Au mois de juin, j'ai un artiste qui s'appelle Franck Ancel qui fait une installation autour de la commémoration de l'exposition surréaliste de 1947. après je prépare Parcours des Mondes pour septembre. Donc c'est toujours extrêmement croisé. Et après je prépare aussi Saint-Germain Photo avec Olivier Blancard qui sera, que je présenterai dans ses autoportraits. Donc c'est assez éclectique, mais il y a quand même une cohérence. Et je vous dis, ce qui est important pour moi, c'est de mixer les chants. Donc cette librairie, je l'ai achetée en 2005 et je quittais à ce moment-là la librairie du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, la librairie du Palais de Tokyo. Donc pour moi, il était important de faire un pas à côté. Je voulais quitter un peu l'institution et pouvoir justement exprimer plus librement mes envies et mes goûts. Il me semble que cette librairie a un côté très très personnel, donc c'est pas une librairie standard ou neutre, vous êtes chez moi. Il y a un côté aussi Wunderkammer à l'arrière, etc. Donc voilà, mes goûts ils sont là. Donc à travers mes choix d'hommes, mes choix d'artistes, etc. Donc c'est extrêmement, c'est un travail que... Comme je ne travaille pas les nouveautés essentiellement, je suis sur ce que j'aime, sur ce que j'ai envie de défendre. Je suis très sollicité pour faire des choses, même sur mon modeste mur.
Bonjour.
Bonjour.
C'était Art Confidence sur Art District. Merci de rester à l'écoute d'Art District. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre compte Twitter et sur notre page Facebook.